Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, on débrief l'actu ce soir, en ce jeudi, avec sur le plateau de Tech & Co, Alexandre Lebrun, cofondateur et président de Nabia et ancien chercheur en IA chez Meta. À ses côtés, Salim Nassur, fondateur de Mars et ex de chez Google. Et puis Jérôme Marin, fondateur de la newsletter Café Tech. Marjorie l'a abordé rapidement. Vous avez vu, cette nouvelle Xiaomi, elle est pas mal du tout. C'est une voiture sympathique que Xiaomi donc vient de dévoiler officiellement. Première voiture électrique, elle s'appelle le SU7, le Speed Ultra 7. C'est un croisement en fait entre une berline et une voiture de sport de luxe qui vise d'abord le très concurrentiel marché chinois et qui veut s'imposer tout de suite comme leader de son secteur avec un concurrent dans le collimateur qui est, on le sait bien évidemment, Tesla. Justine Vassogne nous explique tout ça et on revient juste après.
Nous voulons offrir aux conducteurs de Tesla une meilleure voiture. Le patron de Xiaomi, Lei Jun, n'y est pas allé par quatre chemins. La SU7, il l'a répété à l'envi durant les deux heures qu'ont duré sa présentation. Bat la Model 3, l'une des voitures phares d'Elon Musk, sur tous les plans, ou presque. La SU7 est plus rapide, a plus d'autonomie, 700 km contre 560. Elle est surtout moins chère, 27 000 euros pour la voiture de base, quand une Model 3 en vaut 31 000. Des tarifs qui ne concernent pour le moment que le marché chinois sur lequel Xiaomi entend se concentrer. Pour le moment, il faudra attendre 2 ou 3 ans avant de se lancer à l'international, a prévenu Lei Jun. S'attaquer à la Chine en pleine guerre des prix n'est déjà pas une mince affaire avec son premier modèle. Lei Jun a d'ailleurs admis qu'il perdait de l'argent. Au premier rang, lors de sa présentation, étaient installés de nombreux constructeurs chinois. Ils n'ont rien perdu du message de Xiaomi qui vise la cour des grands. Les premières SU7 seront livrées fin avril.
Voilà, Xiaomi, les téléphones, les télévisions, ils font de l'électroménager en Chine, ils font tout. Et donc leur voiture, le SU7. Salim, est-ce que Tesla doit trembler avec Xiaomi?
Trembler, non. Par contre, ça va être compliqué d'aller en Chine, ça c'est sûr. Parce qu'ils vont prendre le marché. Et c'est assez rigolo d'ailleurs, parce que quand tu connais le... Je ne le connais pas personnellement, évidemment, mais quand tu connais le patron de Xiaomi, c'est un gars qui est décomplexé en fait. Son idole, c'est Steve Jobs.
Oui. Tu vois, il a toujours dit d'ailleurs.
Il a toujours dit.
Il s'en est jamais caché.
Bien sûr, c'est son idole absolue.
Les magasins de Xiaomi ressemblent comme deux gouttes d'eau.
Exactement. Il met comme
c'est
moi,
incroyable.
Mais comme Steve Jobs, des cols roulés noirs.
Noir,
voilà. Ouais, et donc, il est vraiment décomplexé sur la façon d'approcher le marché. C'est-à-dire que quand il est arrivé sur le mobile, il a pris un iPhone. Il s'est dit ça, c'est le truc qui est génial. Je vais faire exactement la même chose et je vais arroser le marché chinois. Et là, avec la voiture, il se dit exactement la même chose. Il va, je vais regarder. Ce qui a bien fonctionné, c'est Tesla. Je reprends les mêmes codes et je vais tout de suite aller à ce niveau-là. Mais surtout, et on l'a bien vu dans le reportage, je suis un peu moins cher et j'ai la fierté nationale. Donc forcément, il prend le marché très rapidement. Et c'est ce qu'il avait fait avec Xiaomi. Tu vois, Xiaomi, ils sont passés d'une marque qui n'était pas connue à, je crois, ils étaient 3 ou 4e à un moment vendeurs dans le monde, rien qu'avec le marché chinois.
Ouais, donc
et après, ils se sont étendus.
Parce que Tesla est très puissant malgré tout en Chine. C'est une marque qui est très respectée, qui fait rêver, etc. Elle risque malgré tout d'être étouffée par le patriotisme chinois qui risque de se tourner vers Xiaomi, c'est ça?
Il y a trois choses. Il y a le patriotisme, il y a le prix, parce qu'in fine, les Chinois, comme partout ailleurs, ils vont regarder.
Elle sera moins chère que la Model 3 et elle aura plus d'autonomie.
C'est ce que j'ai dit. Et le troisième truc, c'est l'autonomie. Et c'est exactement ce qu'il décrit dans sa keynote, c'est de dire on va faire mieux que Tesla et en plus on est chinois et on est moins cher. Donc au final, vous ne posez pas de questions.
Ouais. Après, il y a déjà des concurrents chinois et Tesla s'en sort plutôt bien en Chine.
Il y a BYD.
Apple est américain. Apple est plus cher que les constructeurs chinois et continue à vendre. Même si les ventes baissent en Chine, il continue à être toujours un gros marché pour Apple. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce lancement, c'est que on voit il y a beaucoup de nouveaux constructeurs qui se lancent en Chine. En Europe, c'est plus les anciens constructeurs qui essaient de faire la transition vers l'électrique. Et aux États-Unis, il y a aussi des nouveaux constructeurs qui se lancent, mais tous ils ont des problèmes en fait. Déjà parce qu'ils sont rentrés en bourse beaucoup trop tôt en 2021-2022 et ils arrivent tout. Enfin, aucun n'arrive vraiment à sortir leur modèle quand on voit que les Chinois, les constructeurs chinois, qui sont aussi la plupart, ils n'ont aucune expérience dans l'automobile en fait, et bien ils y arrivent en fait. Et donc, ça, c'est une sorte de Voilà, il y a deux côtés. Les Américains qui étaient le roi de l'automobile, et bien en fait, à part Tesla dans l'électrique, c'est plus les Chinois aujourd'hui qui sont les maîtres de l'automobile électrique.
Et le symbole est fort au moment où Apple vient d'abandonner sa voiture.
Oui.
Et Xiaomi, qui est l'Apple Biz, la sort un mois plus tard.
Oui, non, mais c'est vrai que c'est
après,
vrai que t'as raison.
Après, Apple voulait faire une voiture autonome, donc c'était aussi un peu différent. Ça ne fait pas qu'une voiture électrique.
Oui, mais quand même, c'est vrai que le symbole est fort. Ils arrêtent la voiture et ils y vont. Et là, si tu veux, où il y a quand même un vrai avantage pour Xiaomi, et tu l'as vu avec les trottinettes. Ils ont pris une grosse part de marché sur les trottinettes électriques. L'avantage qu'ils ont par rapport à n'importe quel constructeur automobile, c'est qu'ils ont déjà des stores partout, en fait. Donc, en gros, tu n'as même pas besoin d'exposer ta voiture. Tu peux vendre sur catalogue à un moment et tu as des magasins Xiaomi partout, en Chine évidemment, mais partout dans le monde, en fait. Donc, dès lors qu'après, ils veulent partir à l'international, c'est juste une ligne de plus dans ton logiciel et tu vends une voiture ou une trottinette ou un téléphone.
Alors, on a posé la question au patron de Xiaomi, quand est-ce que cette voiture serait disponible en dehors de la Chine? Pour l'instant, il a dit, c'est pas prévu, on va réfléchir, on va voir. Je pense qu'il essaie d'abord de bien s'investir sur le marché chinois, mais il n'y a pas de raison que cette voiture n'arrive pas un jour en Europe, pourquoi pas, hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dit, oui, souvent Xiaomi, c'est des pâles copies de ce que font, par exemple, les Américains. C'est pas vrai du tout. Non. Vous prenez, par exemple, le Xiaomi 14 Ultra, qui est le très haut de gamme, qui vient de sortir, qui a été présenté au Mobile World Congress. Là, les premiers tests de journalistes tombent et il a un appareil photo qu'on n'a jamais vu sur un téléphone. Voilà, donc ils sont... C'est vraiment l'excellence aussi technologique.
Mais
c'est ça qui est intéressant.
Toutes les marques chinoises de smartphones, tu prends Oppo, tu prends Vivo,
c'est vrai.
Tu prends Huawei à l'époque.
Ou Honor aussi.
Honor, elles ont la réputation d'avoir copié. C'est vrai qu'au départ... elles ont copié l'iPhone ou Android, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, elles ont des capacités d'innovation beaucoup plus grandes. En tout cas, elles innovent peut-être un peu plus que les grosses marques. Et elles ne se contentent pas de recopier ce que font les autres.
Et puis, pour continuer dans l'analogie avec Steve Jobs, un des avantages du patron de Xiaomi, c'est qu'il a cette notion d'excellence. Effectivement, ce n'est pas juste de la copie qu'il veut faire. Et aussi, il a une vraie qualité marketing et commerciale. Tu vois, je m'attends à un moment qu'ils fassent comme dans les mobiles avec les voitures, qu'ils fassent des drops avec des séries limitées, avec etc., où tout le monde se les arrache, en fait, et tu crées la rareté, en fait, et le désir, effectivement. Ouais. Comme tu le fais aujourd'hui sur des téléphones ou d'autres
biens de consommation. Comme ils ont fait au début, ils font plus trop ça, mais c'est au début, c'est ça qu'ils faisaient.
Oui, mais c'est ce qu'ils risquent de faire aussi sur les voitures, tu vois. Donc ils sont très bons là-dessus.
Ils sortent toute une série modèle, hein, bien sûr, de la plus puissante à la moins chère. Enfin voilà, il y a toute une gamme, hein, tout ça est fait intelligemment. La plus puissante a 800 km d'autonomie, elle a une batterie de 101 kWh, c'est énorme pour une voiture électrique. Elle a 673 chevaux, c'est l'une des voitures électriques les plus puissantes du moment. Elle irait même, sur certains points, elle battrait la Porsche Taycan Turbo, qui était une référence. Vous vous rendez compte? Donc, au-delà de l'excellence technologique, il y a aussi la volonté de vouloir se mesurer à des étalons, on va dire, de vitesse, qui est la Porsche Taycan, quoi. C'est quand même incroyable. Bon, à suivre, on verra.
Décomplexé.
Complètement décomplexé, exactement, c'est le mot. Après, vu la taille de la voiture, ça va être compliqué de se garer dans les rues de Paris, je pense.
Je pense pas, c'est plus petit qu'une Model S, et ça doit être à peu près entre la Model S et le Model 3.
La Model 3, mais déjà la Model 3, c'est enfin, en tout cas pour l'Occident, pour l'Europe, c'est compliqué, quoi.
C'est sûr.
Cette voiture. C'était le petit moment, voilà, qui fait rêver avec cette Xiaomi. On revient à ChatGPT. ChatGPT qui, bien sûr, a révolutionné, on le répète tous les soirs, énormément de secteurs, et celui d'éducation, forcément, qui ont été les tout premiers à utiliser ChatGPT en novembre 2022 lorsqu'il est sorti, ce sont les étudiants. Ben oui, parce que c'était quand même un truc hyper pratique pour faire les devoirs, pour corriger les fautes d'orthographe, etc., etc. Tant et si bien que certains profs, ont crié au scandale. Enfin, il y a eu tout un débat là-dessus, hein, qui s'est un peu calmé. Sauf que, Salim, on commence à voir des études qui sortent et qui mettent en avant un truc qui est pas rassurant. Raconte-nous.
Alors, j'ai pas fait l'étude. Par contre, je trouve que c'est bien qu'il y ait des études qui commencent à sortir un an après, parce qu'on va essayer de pas refaire les mêmes erreurs qu'on a fait avec les réseaux sociaux, où on a attendu très longtemps, hein, n'est-ce pas, monsieur Meta, enfin, ex-Meta.
ça fight un peu quand même, hein.
Non, mais c'est marrant parce que, et comme sans doute toi aussi, mais quand j'étais chez Google, on avait accès à plein d'études, si tu veux. Et ce qui se passe aujourd'hui et tout ce qu'on sait sur les réseaux sociaux, on le savait depuis 2015-2016, tu vois. Notamment, il y avait moi une étude qui m'avait vraiment sidéré, c'était la courbe qui montrait la corrélation entre les taux de suicide et sur les adolescents et l'usage des réseaux sociaux. Donc il y a un moment
alors que chez Google il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais vous avez
essayé le Google Plus. On avait essayé, mais ça n'a pas pris.
Je pense que les gens qui se sont suicidés sur Google Plus, c'est parce qu'ils attendaient justement de trouver un ami.
C'est exactement ça.
Mais moi aussi je clash un peu Salim, parce qu'il est malin, mais de temps en temps il faut le remettre un peu à sa place.
Non mais bien sûr, mais bon, ça dit on en rigole, mais non mais c'est grave en fait.
Non c'est grave.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'au moins on prend conscience qu'il peut y avoir des répercussions. Et tu vois, c'est rigolo parce que j'en parlais avec pas mal de DRH là récemment sur la formation de leurs collaborateurs à l'IA. Et tu vois, on l'a vu aussi dans le rapport qui a été remis au président Macron, il faut former massivement tout le monde à l'IA. Mais par contre, on oublie, donc on forme les gens d'un point de vue technique, mais on oublie en fait quel est l'impact sur leur capacité cognitive, quel est l'impact sur leur taux d'attention, quel est l'impact sur vraiment ce que ça va faire par rapport à leur cerveau. Et ça, c'est hyper important de le prendre en compte. Moi, tu vois, quand ChatGPT, tu vois, on parle d'enfants, quand ChatGPT est sorti le 30 novembre 2022, j'ai pris mes enfants dans mon bureau le 1er décembre et j'aurais expliqué. Et j'aurais dit, voilà, ça, il faut le voir comme une calculatrice. Tu t'en sers quand il y a vraiment un truc que tu ne peux pas faire, quand tu veux te dépasser. Mais il ne faut pas oublier que si tu dois faire 2 plus 2, il faut continuer à entraîner ton cerveau à faire 2 plus 2. Parce que si tu ne le fais pas, à terme, il ne saura plus le faire. Et c'est vraiment ça, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe avec
les étudiants. Oui, mais ça dit, on ne peut pas faire le parallèle avec la calculatrice, justement. Et je pense qu'on avait ces mêmes discours dans les années 70 ou 80 quand la calculatrice est arrivée. Avant, les gars, ils faisaient l'opération sur un bout de papier avec une addition, soustraction, multiplication, etc. Mm-hmm. La calculatrice est arrivée, tout ça a disparu, si tu veux. Ça me fait penser aussi Attends, ça me fait penser aussi à un autre truc, c'est le téléphone portable et la mise en mémoire des numéros. Avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on retenait tous les numéros de nos proches. C'est terminé maintenant. Tous les numéros sont là, et bon, on connaît peut-être le numéro de sa mère, de sa femme, etc., mais c'est tout. Et on se rend compte qu'intellectuellement on faisait avant et qu'on ne fait plus aujourd'hui. Est-ce que finalement on peut pas faire le parallèle avec ChatGPT?
Bah oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui tu es en train, et tu vois, ce que tu dis sur les numéros de téléphone est important. Est-ce qu'il y a une valeur à te souvenir de chacun des numéros de téléphone? Pas forcément.
C'est peut-être un exercice mémotechnique.
Non, mais tu peux faire un exercice sur d'autres choses, tu vois. Oui. Il y a aujourd'hui, et je le vois, j'ai des adolescents, ils ont des copains, et moi je pense, j'espère en tout cas, s'ils me regardent, continue comme ça, que je les ai bien éduqués par rapport à ça, mais quand tu n'as pas cette éducation, automatiquement ton réflexe quand tu es adolescent, c'est tu vas tout faire. Et il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. C'est ça mon propos, en fait, de te dire. Quand je prenais l'exemple de la calculatrice, aujourd'hui, moi je vois même des adultes où tu vas leur dire, je sais pas, 7 fois 5. Ils vont prendre leur téléphone pour le faire. Et là, si tu arrives jusqu'à ce niveau-là, même dans la moindre rédaction...
Ça, je m'interdis à le faire. Voilà. Des fois, je réfléchis un peu. 7 fois 5, 35, ça va encore.
Ça va encore. Non, mais j'exagère à peine. Et là, aujourd'hui, si tu te dis que pour la moindre rédaction, pour le moindre truc, tu vas faire appel à ChatGPT, déjà, c'est pas bon pour toi et c'est pas bon pour la planète, parce qu'il y a plein de choses que tu pourrais faire et t'as pas besoin d'autant de puissance de calcul.
Jérôme?
Non, juste, moi, ça me fait penser... Moi, je suis la génération où j'étais au lycée quand Internet est arrivé, en fait. Et quand j'étais au lycée, j'avais des devoirs à faire, mais j'allais sur Internet et je faisais copier-coller. Donc c'est un peu la même
c'est
chose.
Après, c'est mais la honte, Jérôme. C'est pas possible.
Ses diplômes.
J'ai copié-collé Wikipédia.
Même pas, parce qu'il
n'y avait pas
Wikipédia encore. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, ChatGPT, c'est juste que ça pousse plus loin ce qui existait déjà, en fait.
Ouais. C'est Google Plus. Enfin, c'est Google Plus. Voilà.
Non, oui, parce que Google Plus, arrête avec ça. Parce que, franchement,
c'est pour moi.
Tu remues tout le temps dans la plaie, quand même.
C'est de bonne guerre.
Il le fait exprès. En fait, je crois. Alexandre, pardon.
Non, pour moi, c'est un outil. Si ChatGPT est bon à un examen, c'est pas que ChatGPT est intelligent, c'est que l'examen est débile. Et pour moi, c'est ça que ça remet en question. C'est les examens où il faut juste régurgiter les choses, etc. Si, par exemple, on voit que certains examens, même pour le barreau aux États-Unis ou même de médecine, les LLM arrivent à passer, ça veut dire que les examens testent des choses qui sont complètement dépassées et qui sont pas bien structurées et qui n'ont rien à voir avec le pratique des médecins derrière. Et je pense que vraiment, pour moi, ChatGPT, c'est un outil, comme Google l'a été avant, comme le traitement de texte a été avant, comme un stylo où la règle de calcul l'a été avant. Et il faut juste adapter l'éducation et les examens à cet outil. Moi, c'est comme ça que je le verrais. Et donc, de dire, par exemple, je vous donne une réflexion à faire, une rédaction. ChatGPT va vous dire ça. Je suis proche, je vous fais gagner 2 minutes, je vous donne l'output de ChatGPT. Critiquer ça ou aller au-delà. Voilà, donc
exactement.
C'est considérer que c'est disponible pour tout le monde, apprendre à l'utiliser, parce que tout le monde va l'utiliser dans le travail plus tard. Mais c'est une nouvelle donne, et donc l'éducation doit évoluer avec.
Alors, juste pour qu'on remette, parce qu'on n'est pas allé au bout de notre histoire finalement, on parlait de cette étude qui mettait en avant, et c'est ça qui est intéressant, c'était ça l'actu en fait, hein, donc il y a une étude qui a été faite sur 494 étudiants universitaires, c'était aux États-Unis je crois, à qui on a dit, bah voilà, utilisez ChatGPT, etc. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que, en fait, il mémorisait moins bien les choses parce qu'il se servait tellement de ChatGPT que le cerveau était un peu au soleil, quoi, à la plage. Voilà, alors c'est vrai, c'est toujours sur des courtes périodes ces études-là. C'est vrai qu'il faut voir si véritablement ça a un impact ou pas, mais ça serait intéressant d'avoir votre avis là-dessus.
Oui, mais si vous voulez, moi, c'est marrant parce que je parle que de ça en ce moment en entreprise. Il y a deux choses. Il y a utiliser une technologie et savoir pourquoi et comment tu utilises cette technologie. En gros, si tu veux, la technologie, c'est du hard skills. C'est comment j'apprends à utiliser un outil. De l'autre côté, c'est du soft skills, c'est des compétences humaines, c'est comment, qu'est-ce que ça développe chez moi. Et pour ton exemple est excellent. Tu vois, c'est refaire un petit peu ce schéma de pensée et de dire comment je critique. Et ça, on le sait depuis longtemps. Hein. Tu vois, notamment, on parle, je ne sais pas si vous connaissez les 4 C. Les 4 C, c'est 4 compétences clés du 21e siècle. Donc, dedans, il y a la curiosité, communication, collaboration et... En anglais, ça fait critical thinking, donc pensée critique, c'est exactement ce que tu décris. Travailler ça, c'est des choses qu'aujourd'hui la machine ne sait pas faire, et c'est ce vers quoi on devrait pousser les étudiants, mais aussi tous les collaborateurs d'entreprise, avant même, et c'est moi ce que je dis, hein, tu vois, je fais des formations parfois, je leur dis, mais avant même d'apprendre à savoir prompter, utiliser l'IA, est-ce que ça fait, etc., développer vos compétences humaines, vos soft skills, pour pouvoir justement aller challenger cette IA, et surtout, continuer à travailler votre cerveau, parce qu'au final, sinon, tu te lobotomises, en fait.
Après, est-ce qu'il ne faudrait pas changer la méthode de ce que tu disais, finalement, la méthode pour juger si un étudiant a compris ou pas ce qu'on lui demande, non ? Parce que, finalement, on voit que ChatGPT arrive à gruger les examens. Il faudrait peut-être trouver des examens qui soient plus facilement...
Pas gruger ?
Plus difficilement grugeable par ChatGPT.
Après, un examen, généralement, tu n'as pas accès à ChatGPT pendant tes examens. Donc,
Ah, mais tu sais qu'aujourd'hui, il y a plein de trucs qui se font maintenant à la maison. Ça. Enfin, voilà. Et puis un téléphone.
Oui, mais si je peux me permettre, c'est intéressant parce que tu vois, j'ai vraiment ces conversations avec mes enfants. Mais est-ce que c'est grugé, pas grugé ? En fait, pour moi, et c'est là où je te rejoins complètement, c'est comment tu redesignes ton examen. Est-ce qu'aujourd'hui, un étudiant, si tu enlèves toute intelligence artificielle, qui apprend bêtement ses cours, qui les régurgite le jour de l'examen, qu'a tout bon, mais qui demain ne sait pas faire et ou ne s'en souvient plus, ça change rien en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment revenir à la base.
Parce que le schéma pédagogique actuel...
Exactement, c'est pour ça que ce que tu dis est complètement vrai. Vas-y, pardon.
Ouais, pour moi, c'est une opportunité justement de repenser.
C'est ça.
Alors c'est ambitieux, l'éducation, et notamment la mesure des compétences. Mais le plus important, c'est l'éducation en elle-même. Mais de toute façon, on aura cet outil plus tard.
Mais quel chantier titanesque pour...
Oui, mais il était temps. Parce qu'en fait, on a toujours le même schéma d'il y a 50 ans. Donc
tout repenser, c'est pas évident. Il nous reste 5 minutes, les amis. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On a deux choix, et là, c'est comme vous voulez. Hein. On a Meta. Alors, je sais qu'Alexandre va prendre ce sujet. Qui ajoute de l'IA à ses lunettes. Et c'est assez intéressant, je trouve, parce que, voilà, c'est pas mal. Ou bien, les réseaux sociaux, moins de 14 ans.
Ah, bah, interdit, je pense il est important, celui-là.
Pour
son ancien employeur.
On prend la Floride. Allez, la Floride.
Juste, il veut faire une phrase sur Meta. Avec les Ray-Ban, Meta est en train de réussir ce que Google a échoué avec les Google Glass.
Ils sont mignons tous les deux.
Après, il faut que les gens les achètent.
Voilà, c'est ça.
Bravo. Mais attention, parce qu'on a parlé de Xiaomi. Xiaomi arrive avec ses lunettes, t'as vu ? Ils veulent les sortir à 60$. C'est pas les 300$ de Meta.
Juste pour terminer avec ces lunettes Meta, qui aujourd'hui ont des appareils photo, des caméras, des petits écouteurs, des micros, etc. Là, la nouveauté, c'est que vous êtes par exemple devant la Tour Eiffel et vous dites Meta, qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Eh bien, vous avez la caméra qui va analyser la Tour Eiffel et va vous dire, c'est la Tour Eiffel, quoi.
Ouais, et là, il te dit, t'es bête ou quoi ?
C'est ça. Oui, mais ça, évidemment, c'est un exemple un peu débile, sauf peut-être pour certaines personnes coupées du monde et qui ne savent pas trop ce que c'est, mais pour des choses beaucoup plus compliquées, ça peut être sympa.
Non, bien sûr. Mais t'as raison, c'est là où. Mais en fait.
C'est la reconnaissance
de Google. C'était trop tôt, c'était il y a plus de 10 ans, tu vois. Donc c'était Google Glass, il y a plus de 10 ans.
Bon, voilà. Ça arrive. Ça arrive bientôt et c'est une mise à jour soft qui va arriver sur les derniers modèles de Ray-Ban Meta qui sont sortis.
Et vraiment, elles sont très bien en plus.
Ouais, elles sont cool. Elles sont très jolies en plus.
C'est Ray-Ban.
Allez, on va en Floride. superbe état, bien évidemment, bien sympathique, mais qui a décidé d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 14 ans. En gros, alors je ne sais pas comment ils veulent faire, mais il y aura des vérifications et puis des sanctions fortes aussi auprès des réseaux sociaux en question s'ils ne respectent pas ça. C'est ça, hein,
Salim ? Oui, c'est la meilleure info du jour. Non mais c'est génial, tu vois, et y a d'autres États américains qui sont en train de se mettre sur la liste justement pour interdire. Alors toi, je pense que tu vas pas être d'accord peut-être, mais encore une fois, là, on en parlait tout à l'heure.
Là, avec le petit rictus, je suis pas d'accord, je vais tacler Salim.
Mais allons-y, et on va avoir un vrai débat, malheureusement on n'aura pas le temps, mais c'est hyper important. Tu vois, ce dont on parlait tout à l'heure avec ChatGPT, et pourtant ça ne fait qu'un an, on est à 10-15 ans de réseaux sociaux, et on connaît tous les méfaits des réseaux sociaux sur les adolescents et même sur d'autres. Et ça, aujourd'hui, de commencer à l'interdire, c'est une très bonne chose. Après, pour répondre à ta question, comment, c'est assez simple finalement, parce que aujourd'hui, un adolescent ne sait pas ouvrir un compte bancaire. Donc, il y a des moyens coercitifs pour faire en sorte que si tu ne veux pas que quelqu'un utilise un service, tu peux très bien le faire. Ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Et là, encore une fois, on est dans de la protection, non pas juste des adolescents, mais de populations futures. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si tu casses leur attention, etc. Et surtout, dernière chose, et j'en terminerai là-dessus, si vous avez regardé les dernières phrases que des réseaux sociaux au Congrès américain, tu as quand même un Mark Zuckerberg, alors c'est la posture, mais il s'est excusé devant les parents qui étaient derrière lui avec les photos des jeunes qui s'étaient suicidés à cause des réseaux sociaux. Donc il y a un vrai impact. Donc maintenant, explique-moi pourquoi il ne faut pas les... tu es d'accord, là.
Non, mais qu'on réfléchisse à limiter ou à interdire, je ne sais pas, mais au moins limiter l'utilisation par les adolescents, pourquoi pas. Après, c'est une question pratique. Déjà, aux États-Unis, il y a le premier amendement qui va passer par là et qui va certainement annuler la loi.
Pourquoi ?
Liberté d'expression, c'est pas la loi américaine. Hein. Moi, je dis pas que c'est bien ou pas. La loi américaine dit que le gouvernement ne peut pas décider si tu peux utiliser un service ou pas. Oui. Et c'est pour ça que TikTok.
Parce qu'à chaque fois qu'un État a proposé ce type de loi, elles ont été attaquées en justice.
Sûr, par le premier amendement. Mais là, il commence à y avoir un vrai consensus.
Et ensuite, juste pour dire, aujourd'hui, légalement, tu peux pas utiliser Facebook, tu peux pas utiliser Instagram si t'as moins de 13 ans aux États-Unis, parce qu'il y a des lois sur la protection des enfants de moins de 13 ans aux États-Unis. Et c'est légal, mais ils veulent pas gérer tout ça. Mais ça n'empêche pas les enfants de moins de 13 ans d'utiliser le Facebook.
Ils changent leur date de naissance.
C'est ça qui est intéressant.
Oui, mais après, comment tu vérifies ? Parce que tu dis 14 ans, d'accord, mais 15 ans, tu n'as pas forcément de carte bancaire. Tu as le droit d'utiliser 15 ans avec l'autorisation de tes parents. Qui va vérifier ? Est-ce que... Parce qu'en fait, il faut dire, la loi, elle est plus que sur les réseaux sociaux. Il y a plein de sites. Tous les sites où il y a des contenus un peu...
Sensibles
devront vérifier. C'est-à-dire que... Et donc, les adultes devront aussi vérifier leur identité.
Bien sûr, mais les adultes, ils feront enfin leur travail.
Et aujourd'hui, ça n'existe pas. Et parce que, au Royaume-Uni, par exemple, il y a la même chose sur les sites pornographiques au Royaume-Uni. Ça fait des années que ça a été voté, la loi. Il n'y a toujours pas de solution pour que ça soit mis en place. Donc, tant qu'il n'y a pas de solution technique qui convienne à tout le monde, ça ne pourra pas passer.
Alex, de toute façon, ils arriveront à le contourner et à le hacker, mais au moins, ça la fermera à hacker les choses. Ça sera peut-être...
Non, mais encore une fois, c'est là où je diffère là-dessus, pardon, mais... C'est comme l'alcool. Tu ne peux pas empêcher un jeune d'aller boire de l'alcool. Par contre, tu as le droit de l'interdire. Mmh. Et si tu ne fais pas au moins cette première barrière, c'est, comme on dit, la porte ouverte à toutes les fenêtres.
C'est la posture, en fait. C'est la posture.
C'est pas que de la posture. Ça limite un peu. Et je préfère limiter un peu que laisser la porte ouverte. Voilà, c'est tout.
Et ben voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Salim Nassur, fondateur de Mars et ex-Google. Merci Alexandre Lebrun, cofondateur et président de Nabia et ancien de chez Meta. Et merci à Jérôme Marin. Toujours un plaisir de te recevoir, Jérôme, fondateur de la newsletter cafetech.fr. On peut s'abonner, bien sûr. Et tu distilles toute l'actualité tech. Quel est le rythme, en fait, de la...
J'essaie de faire 4 fois par semaine.
Pas mal.
Ouais, oui, des fois c'est 3, mais j'essaie de faire 4 fois par semaine.
Allez voir un peu cafetech.fr. Merci beaucoup.